camarades, chers amis, bonsoir. Le contexte politique dans lequel se déroule la campagne des élections régionales a pris un tour bien différent depuis les attentats ignobles perpétrés par les djihadistes qui se revendiquent de l'organisation État islamique. La barbarie qui règne en Irak, en Syrie, qui déstabilise tout le Moyen-Orient, nous avait rattrapés déjà en janvier lors des attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère. Mais cette fois, au-delà du nombre de morts et de blessés, ce qui frappe d'horreur est la volonté affichée des terroristes de frapper indistinctement la population. Leur but est de semer la terreur pour que chacun s'imagine être une cible potentielle, celle d'un prochain attentat. Oui, rien ne peut justifier de telles tueries. Depuis plus de 10 jours, alors que nous sommes tous bouleversés, sous le choc et la crainte, les principaux dirigeants profitent de cette émotion, l'utilisent pour que l'on se taise et se range derrière leur politique. Derrière toute leur politique. Celle qu'ils mènent ici en France contre les classes populaires et celle qu'ils mènent au Moyen-Orient. Et c'est de la façon la plus solennelle que les dirigeants ont mis en scène cet appel à l'Union nationale. Les deux assemblées réunies en congrès à Versailles, gardes républicains et journalistes au garde à vue, retransmission sur toutes les chaînes, et puis discours devant 2000 maires réunis pour la circonstance. Après avoir reçu tous les responsables politiques, Hollande a annoncé les mesures directement puisées dans l'arsenal politique de la droite et de l'extrême droite. Mesures sécuritaires, fermeture des frontières, déchéance de nationalité, augmentation des pouvoirs et des effectifs de la police et de l'armée, armement des policiers municipaux, autorisation pour les policiers qui ne sont pas en service d'utiliser leurs armes ou encore arrestation sur simple suspicion de radicalisme. Sarkozy et Le Pen se sont bel et bien fait doubler sur leur droite par Hollande qui, après les avoir reçus, leur a piqué leurs idées. Ah, ils ont bien tenté de se démarquer en conspuant à l'Assemblée les ministres socialistes. Mais cela a eu un effet contraire à l'effet recherché. Cela a provoqué un tollé dans les médias. Mais si l'UMP, le Front National et le PS s'affrontent dans des combats politiciens, sur le fond, ils sont tous d'accord, les uns et les autres, pour défendre le même ordre social et le même système capitaliste. D'accord pour défendre les intérêts de l'impérialisme en Afrique et au Moyen-Orient. Et au nom de l'Union sacrée, ces partis mettent ensemble tout leur poids pour nous faire accepter que nous sommes entrés en guerre vendredi 13 novembre. Depuis 10 jours, l'appel à l'Union nationale a été répété sur tous les tons. Toute une campagne est menée pour nous enchaîner derrière leur politique guerrière. Ils nous martèlent que la France est en guerre depuis le 13 novembre et qu'un moment aussi grave ne peut supporter aucune contestation. Ils voudraient effacer de nos mémoires les multiples interventions de l'impérialisme français en Afrique et au Moyen-Orient. Rappelez-vous, en août 2014, quand Hollande rejoignit avec empressement la coalition américaine pour intervenir en Irak, on nous disait que c'était pour sauver les populations victimes de la barbarie de Daesh. Nous avions dénoncé cette duperie et condamné cette intervention, comme celle décidée en Syrie au mois de septembre. Hollande prétend à chaque fois que c'est pour établir la paix, la liberté. Mais ces interventions n'ont rien apporté d'autre que la guerre et sa continuation. Elles n'ont pas fait reculer d'un pouce les troupes de l'État islamique. Oui, pour justifier leur guerre, les dirigeants des grandes puissances s'appuient sur un sentiment répandu, un sentiment humain. Le sentiment qu'on ne peut pas rester sans rien faire face à la barbarie. Hollande aujourd'hui, pour justifier l'accélération de la guerre en Syrie, joue sur la peur et la cultive à l'envi. Hollande et tous les dirigeants qui nous prêchent l'Union sacrée prétendent cette fois intervenir pour nous protéger et détruire Daesh. Bien sûr, on peut se dire qu'on ne peut pas rester sans rien faire face à la barbarie, qu'on ne peut pas vivre dans la peur et la crainte permanente d'un attentat, c'est vrai. Mais l'Union nationale, la guerre et l'état d'urgence ne nous protégeront pas de ces attentats. Au contraire, Les bombes qu'ils larguent en Syrie ne font pas la distinction entre les combattants et les populations civiles qui vivent sous la dictature de Daesh, à Raqqa ou à Mossoul. Ces bombardements, qu'ils soient russes, français ou américains, ne font qu'amplifier le chaos dont se nourrit l'État islamique. En jouant sur les peurs et les émotions, les dirigeants politiques français veulent avant tout cacher leurs responsabilités et celles des grandes puissances impérialistes dans le chaos qui règne au Moyen-Orient. Ils veulent faire taire toute opposition. Mais l'État islamique et sa monstruosité sont le résultat de 15 ans d'intervention impérialiste au Moyen-Orient. Après les attentats du 11 septembre 2001, perpétrés par Ben Laden, homme que les dirigeants américains avaient formé et financé, les États-Unis et ses alliés ont déclaré la guerre au terrorisme. Ils ont ravagé l'Afghanistan et les talibans sont toujours là. Et puis, ils se sont attaqués à l'Irak. Ils ont détruit tout un pays, démantelé son armée, son administration. Ils ont dressé les Irakiens les uns contre les autres en fonction de leur confession. Ils ont mis en place un gouvernement qui a marginalisé et réprimé la fraction sunnite du pays. Cette oppression des populations irakiennes sunnites, voulue par les États-Unis et leurs alliés, a permis aux bandes armées de Daesh de recruter et de prospérer. La guerre contre le terrorisme menée par les Américains a engendré des monstres plus féroces encore. Et puis, pour abattre un régime qui ne leur plaisait pas, celui de Bachar al-Assad, l'Arabie Saoudite et le Qatar ont armé et financé les bandes armées de Daesh. Et ils continuent à le faire. Quant à la Turquie, elle a laissé prospérer les djihadistes, faisant de sa zone frontière avec la Syrie une base arrière où les mercenaires de Daesh pouvaient s'infiltrer, se reposer, se soigner. Le président turc Erdogan faisait le calcul de s'en servir à la fois contre Assad et surtout contre les Kurdes. Et c'est en s'appuyant sur ces régimes pourris et monstrueux qu'on pourrait vaincre l'État islamique. Ce même double jeu est joué par chacune des grandes puissances. Ainsi, la France vend massivement des armes au Qatar et à l'Arabie Saoudite et en est alliée, alors que ces pays sont parmi les dictatures les plus réactionnaires et moyenâgeuses qui ont largement contribué à diffuser dans le monde entier l'islam le plus réactionnaire qu'il soit. Hollande, qui prétend intervenir au nom de la paix et de la liberté, n'a pas été gênée d'être reçue en grande pompe en Arabie Saoudite, pays qui applique la charia, pays qui a servi de modèle aux djihadistes, pays qui décapite et crucifie les condamnés, pays qui lapide les femmes pour adultère et qui a condamné à 1000 coups de fouet un jeune opposant. Non, il est même fier de tous ces contrats signés qui vont faire la fortune des Dassault et Thalès. Pour le malheur des populations, cette région qui dispose des plus grandes réserves de pétrole au monde a toujours été convoitée et sous l'emprise des grandes puissances impérialistes. Et la Syrie est devenue un champ de bataille où tous s'affrontent et se mesurent. Hollande, qui depuis 3 ans mène une campagne contre le dictateur Bachar al-Assad, a cessé toute critique à son égard. Tout occupé qu'il est à œuvrer pour une coalition unique réunissant Poutine, Obama et lui-même. Il est sans doute prêt à s'allier au bourreau Assad qui a emprisonné et torturé des milliers d'opposants et utilisé des armes chimiques contre son peuple. Cela en dit long sur les visées démocratiques qu'Hollande prétend avoir au Moyen-Orient. Alors, la guerre menée par les grandes puissances n'éradiquera pas le terrorisme. Elle ne fera que l'alimenter davantage. Je voudrais maintenant évoquer les conséquences politiques de l'état d'urgence qui se prolonge et des mesures sécuritaires que le gouvernement met en œuvre. Nous rencontrons souvent l'objection suivante, mais il faut bien faire quelque chose. Mais l'accentuation de la guerre, fera-t-il reculer les terroristes? Non, au contraire. Quant aux mesures sécuritaires, arrêteront-elles les terroristes ici? Des kamikazes prêts à se tuer seront-ils arrêtés si on les menace d'être déchus de leur nationalité ou d'être expulsés? C'est dérisoire. Lorsqu'on voit que les terroristes qui ont agi sont français, ils sont nés ici, ils sont recrutés ici. Et quand bien même ils seraient un peu plus entravés dans leur déplacement, quand bien même demain, il leur serait plus difficile de se rendre en Syrie, qu'est-ce que cela changerait puisqu'ils sont là? Et est-ce que la multiplication des contrôles aux frontières, si chère à l'extrême droite, les entravera? Certainement pas. Aucune frontière n'a jamais été étanche. Ces mesures sécuritaires s'apparentent à des gesticulations. Mais elles seront de vrais moyens pour faire taire les voix dissidentes. Elles seront utilisées contre ceux qui veulent s'opposer et manifester contre le gouvernement ou le patronat. Une des premières interdictions a frappé les manifestations qui devaient avoir lieu dimanche dernier en soutien aux migrants. Alors qu'ils fuient la terreur de la guerre ou des dictatures de bandes armées au Moyen-Orient et en Afrique, les migrants sont les premières victimes du tournant sécuritaire pris par nombre de pays, à commencer par la France. Dans toute l'Europe, les frontières se referment. L'horreur des attentats nous donne une idée de la terreur quotidienne que ces femmes et ces hommes ont subie et ont fui. Cela nous donne une raison supplémentaire de les secourir. Et il est interdit de manifester pour le dire. En revanche, le gouvernement n'a pas interdit une marche à Toulouse en soutien à l'attitude sécuritaire de Valls et de Hollande. Ces interdictions ne visent pas à lutter contre le terrorisme, mais bien à faire taire tous ceux qui contestent la politique du gouvernement. La dernière fois qu'on a eu recours à l'état d'urgence, c'était pendant la guerre d'Algérie. L'état d'urgence permit alors aux forces de l'ordre de réprimer les rares manifestations, en particulier la manifestation du 17 octobre 1961, où des centaines d'Algériens furent tués par des policiers et jetés à la Seine. C'est ça l'état d'urgence. Une parole censurée, des militants surveillés, une presse bâillonnée. Pour l'instant, le gouvernement a dit qu'il n'userait pas de son droit de contrôler la presse et les journaux. Remarquez, c'est vrai qu'il n'en a pas besoin, puisque les grands médias se mettent spontanément aux ordres, mais l'état d'urgence lui en donne la possibilité. Et au-delà des pouvoirs accrus pour l'État et la police, qui risquent de se retourner contre nous, cette politique sécuritaire renforce les préjugés réactionnaires, racistes, nationalistes ou xénophobes. Toutes ces mesures, déchéance de la nationalité, des binationaux, fermeture des frontières, expulsion, ne peuvent qu'encourager la méfiance, la suspicion, le repli sur soi, l'intolérance. Elles pointent du doigt les étrangers, les immigrés, boucs émissaires faciles pour tous ces dirigeants politiques qui veulent se dédouaner à bon compte de leur responsabilité dans le chaos guerrier qu'ils ont semé au Moyen-Orient. Il faut refuser le fossé de méfiance et de haine qu'ils veulent creuser entre les travailleurs français et immigrés. Qu'ils soient véhiculés par le FN ou le PS, le nationalisme est un poison semé dans la tête des travailleurs. Va-t-on laisser le FN et ses clones de la droite et du PS nous enfoncer dans le climat guerrier et dans cette méfiance généralisée? Va-t-on les laisser dire qu'il faut rejeter les migrants au prétexte que des terroristes peuvent s'infiltrer dans leurs rangs? Il ne le faut pas. Ces idées prennent d'autant plus facilement qu'en face, il n'y a pas assez de monde pour s'y opposer. Et ce n'est pas en faisant des leçons de morale républicaine que nous les combattrons. C'est en nous adressant aux travailleurs, au nom de leurs intérêts. Il est vital que nous, les travailleurs, quelle que soit notre origine, nous sentions une classe unie par nos intérêts, pour le défendre contre cette minorité qui nous exploite et plonge le monde dans la barbarie. Il est vital que nous retrouvions une conscience de classe, une conscience de nos intérêts communs, par-delà la diversité de nos métiers, de nos origines. On nous rabâche que notre identité dépend de notre origine, de notre nationalité, de notre confession. Et c'est un aspect essentiel. Mais un aspect essentiel de notre vie et de notre identité, c'est que nous sommes des travailleurs, des ouvriers, des employés, gardiens, aides-soignants, caissières. Notre condition de travailleur exploité nous unit au-delà de nos différences. Alors, il faut serrer les rangs, rejeter ceux qui veulent dresser un mur entre nous et affirmer notre conscience d'appartenir à une seule et même communauté, la communauté des travailleurs et des exploités. une classe sociale qui n'a rien de commun avec ceux qui nous appellent aujourd'hui à l'Union nationale, car ce sont les mêmes dirigeants qui nous portent les coups ici en France, en détruisant les droits des travailleurs, en permettant aux patrons de licencier sans entrave, en laissant le chômage battre record sur record. Alors ces mesures confortent tous les racistes et jettent ceux qui ont peur dans les bras des plus nationalistes. Le gouvernement espère sans doute tirer profit de son nouveau cours sécuritaire. Mais c'est le Front National qui en tirera le plus de profit. Il faut refuser le cours réactionnaire et guerrier caché derrière l'unité nationale, le drapeau, le tricolore et la Marseillaise. L'esprit national est contraire aux intérêts des travailleurs. Il sert à faire taire les revendications et les luttes légitimes des exploités contre les exploiteurs. Cette guerre contre le terrorisme est le prétexte pour demander l'unité de toute la population derrière cette politique guerrière. Mais c'est pour satisfaire l'accès au pétrole et aux matières premières des grands groupes capitalistes, c'est pour permettre la continuité des affaires des grands groupes capitalistes comme Total ou Areva, que le gouvernement engage les aventures militaires en Afrique et bombarde la Syrie et l'Irak. Les travailleurs d'ici ont intérêt à montrer qu'ils ne sont pas complices de ce prangurdage, qu'ils ne sont pas complices de leur propre impérialisme. Alors nous, à cette politique guerrière, abat l'impérialisme. Avant le 13 novembre, faute de pouvoir mettre en avant un bilan positif pour les travailleurs, le Parti Socialiste jouait sur la peur du FN pour que tout le monde à gauche s'aligne derrière lui. Son principal argument était de campagne, votez pour nous, sinon vous aurez le FN. Et Valls a agité la menace que l'accession du FN à la présidence d'une région serait une catastrophe. Marine Le Pen n'a même plus besoin de faire campagne. Le Parti Socialiste s'en charge très bien pour elle. C'est ainsi qu'elle a pu se féliciter dans les colonnes du Monde, je la cite, « Quand vous voyez un président de la République tourner le dos à toutes les idées qui étaient les siennes et reprendre les mesures du Front National, il y a un côté étonnant, un hommage au Front National qui se trouve crédibilisé. » Oui, il y a de quoi être écœuré par ces dirigeants socialistes qui font l'union sacrée avec le Front National et qui, demain, ne seront pas gênés de nous demander de faire barrage au Front National en votant pour un Front Républicain. L'influence du Front National dans la classe ouvrière est un des éléments les plus inquiétants de la situation actuelle. Que son électorat traditionnel, petit patron, une grande partie des commerçants, vote pour Le Pen est dans l'ordre des choses, mais qu'une fraction des travailleurs des nôtres se fourvoient et cèdent à sa démagogie, reflète le désarroi politique engendré par la trahison et les reniements de partis qui prétendaient représenter leurs intérêts. Le Parti Socialiste, le FN et la droite se combattent, mais ils s'entendent pour écraser les travailleurs et leur imposer tous les sacrifices, quitte à les enfoncer dans la misère. Ils s'entendent pour défendre l'ordre capitaliste. Ils sont les uns et les autres les serviteurs zélés de la grande bourgeoisie. Rappelez-vous comment lors de l'explosion de colère des travailleurs d'Air France, Valls, Sarkozy et Le Pen ont en cœur et avec virulence traité les travailleurs d'Air France de voyous. Ils ont défendu instinctivement la classe sociale à laquelle ils sont dévoués, celle de la bourgeoisie. Et Marine Le Pen, qui prétendait défendre les travailleurs français, nous montrait son vrai visage. Les travailleurs, elle les veut soumis, et quand ils défendent leur peau, elles écrasent. Pour séduire les classes populaires, Marine Le Pen a développé toute une démagogie sociale à côté de son fonds de commerce traditionnel, la haine des étrangers, le racisme anti-immigrés ou anti-musulmans. Elle a cherché à s'adresser aux travailleurs pauvres, français bien sûr, qui triment et sont mal payés. Pendant un temps, elle est allée jusqu'à brandir le retour de la retraite à 60 ans et le SMIC à 1500 euros. Oh, c'était, comme pour tous les politiciens, des promesses qui n'engageaient que ceux qui les croient. Mais comme il n'a jamais été question pour le FN d'imposer quoi que ce soit aux patrons et de leur demander de payer, c'était des discours de charlatans. Mais ces promesses étaient sans doute trop insupportables dans les oreilles de petits patrons réactionnaires qui constituent les noyaux durs de l'électorat du Front National. Elle ne collait pas avec l'image de parti responsable que le FN veut se donner auprès de l'électorat de droite. Alors, telle une girouette, le FN est en train de faire disparaître tout cela de son programme. Il n'aura même pas fallu attendre que le Front National arrive au pouvoir pour le voir trahir ses promesses vis-à-vis des travailleurs. L'influence du Front National dans la classe ouvrière vient des peurs, du repli sur soi, de la déception engendrée par les partis de gauche. Tout cela est renforcé par le fait que cela fait très longtemps que les travailleurs ne se sont pas battus sur leur terrain de classe face aux attaques de la grande bourgeoisie. Mais cela provient aussi du fait qu'ils ont cessé de se battre pour diffuser leurs valeurs au sein même de la classe ouvrière. Le camp des travailleurs. La fraction des travailleurs conscientes a toujours porté des valeurs propres aux exploités. Alors que la bourgeoisie a toujours prôné l'individualisme, la concurrence et le chacun pour soi, les travailleurs ont compris qu'ils avaient besoin de solidarité, d'organisation et de dévouement, non seulement pour se battre contre l'exploitation, mais tout simplement pour survivre. En se développant, le mouvement ouvrier a créé ses propres valeurs, contre la bourgeoisie et son sacro-saint règne de l'argent. Et tout en menant le combat quotidien contre le travail des enfants, pour la journée de travail de 8 heures, les militants défendaient l'idée de l'émancipation sociale, du progrès de toute la société, d'un monde libéré des superstitions et des préjugés. L'internationalisme a toujours fait partie du capital du mouvement ouvrier. Et c'est en intégrant dans leur rang tous les travailleurs, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur langue, leur religion, leur couleur de peau, que les travailleurs ont gagné leur meilleur combat. Ce faisant, ils ont fait reculer les idées racistes et xénophobes dans toute la société. Et l'honneur du mouvement ouvrier a été de militer contre toutes les formes d'oppression, pour l'émancipation des femmes, contre l'esclavage, pour la libération des peuples colonisés et contre l'apartheid. Ainsi, peu après sa fondation en 1920, ici même, à Tours, le Parti communiste avait su mener contre la politique impérialiste de la France, une campagne anticolonialiste au moment de la guerre du Rif au Maroc. Mais ensuite, rapidement, en épousant tous les virages du régime stalinien en URSS, le Parti communiste a glorifié le rôle de l'armée française à l'époque où Staline recherchait une alliance avec la France. Le tournant vers le nationalisme était pris définitivement. Le drapeau bleu-blanc-rouge, au lieu du drapeau rouge, la Marseillaise, au lieu du chant des travailleurs du monde entier, l'international. Au fil des années, les dirigeants du Parti communiste, s'évertuant à le présenter comme un parti aussi français, voire plus français que les autres, ont fait disparaître les objectifs internationalistes au sein du mouvement ouvrier où leur influence était prédominante. Du chauvinisme durant la Deuxième Guerre mondiale au produire français dans les années 70, en passant par la mise au pinacle de la souveraineté nationale face à l'Europe, qui ponctue régulièrement les pages du journal L'Humanité, toutes choses auxquelles s'ajoutent aujourd'hui les diatribes cocardières et anti-allemandes de Mélenchon, il y a une continuité politique dont on voit les conséquences catastrophiques au sein de la classe ouvrière. Qu'on le veuille ou non, cette politique nationaliste et ce chauvinisme outrancier a ouvert un boulevard aux Le Pen, père et fille, leur permettant de passer d'une influence marginale à celle qu'on leur connaît actuellement. Comprendre cela est important, car il en découle que le chemin inverse est possible, que l'on peut remonter la pente, et que le mouvement ouvrier peut renouer avec cette phrase du manifeste communiste de Marx et Engels, « Les travailleurs n'ont pas de patrie ». Capable d'ébranler la société, il faut se battre à nouveau pour diffuser les idées internationalistes et les valeurs propres au mouvement ouvrier parmi les travailleurs. Les idées de la lutte de classe qui constituent la seule boussole pour indiquer les intérêts des travailleurs. Loin des calculs électoraux, il faut montrer aux nôtres, y compris à ceux qui s'égarent en regardant vers le Front National, qu'il y a encore dans la classe ouvrière des femmes et des hommes qui connaissent la seule voie pour lutter contre les injustices et les inégalités de cette société, lutter contre la bourgeoisie, faire reculer l'exploitation pour finir par la supprimer totalement. il n'y aura pas d'autre raccourci pour combattre le Front National. Faire entendre le camp des travailleurs, c'est porter les revendications immédiates qui permettraient au mouvement ouvrier de relever la tête. Mais c'est aussi lutter contre le recours réactionnaire pris par la société. La crise des migrants illustre le cours de plus en plus inhumain pris par la société. Des milliers de migrants qui fuient la guerre et la misère au péril de leur vie, des milliers de familles se heurtent désormais aux murs et aux barbelés dont l'Europe s'est hérissée. En leur assurant la liberté de circulation et d'installation, les réfugiés se répartiraient d'eux-mêmes à l'échelle de l'Europe. Ils pourraient s'appuyer sur des membres de leur famille, sur toutes les bonnes volontés qui existent, agissant sous la pression de la droite et de l'extrême droite. Hollande barricade les frontières et aggrave les souffrances de centaines de milliers d'enfants, de femmes et d'hommes. L'Europe, un des continents les plus riches de la planète, peut largement accueillir tous ces migrants. Dans les années 30, en pleine crise économique, la France a su accueillir des réfugiés de la guerre d'Espagne et à la fin de la guerre d'Algérie, en 1962. En l'espace de quelques mois, 1 million de pieds-noirs ont traversé la Méditerranée. Et il faut aussi dénoncer le tri qui est fait entre les vrais réfugiés qu'on pourrait accepter et les migrants économiques qu'il faudrait refuser. Il faut dénoncer ces centres hotspots qui sont une façon de sous-traiter les migrants aux pays pauvres, à la Grèce, au Liban, à la Jordanie, à la Turquie. Comme si pour ces pays, ce n'était pas un problème autrement plus compliqué à résoudre que pour des pays riches comme l'Allemagne ou la France. Les grandes puissances payent pour que ces centres soient le plus loin de chez eux, exactement comme les municipalités bourgeoises payent pour ne pas construire des logements sociaux sur leur territoire. Excusez-moi, il y a un problème de page.
On ne fait pas de pause musicale pendant la recherche des feuilles.
Ben, je vais faire un petit saut. Hein. Alors, je reste ici, vous inquiétez pas. Hein. Ben, un petit saut parce que il manque. Donc je disais que vous avez bien compris, je dénonce la politique du gouvernement français vis-à-vis des migrants. Voilà. Donc notre but, nous, c'est de faire en sorte que la conscience de classe redevienne la boussole des travailleurs. Hein, et c'est ça notre raison d'être. Je reviens sur les événements d'Air France. Donc ces événements, ils ont confirmé le caractère anti-ouvrier de tous les grands partis, du Parti Socialiste au Front National. Mais ils ont aussi réveillé la conscience de classe dans le monde du travail, sans que cela n'ait été coordonné par aucun syndicat, par aucun parti politique. L'écrasante majorité des travailleurs s'est unie derrière les salariés d'Air France et contre le torrent de boue dont ils ont été victimes. Cela a été une réaction élémentaire et un même sentiment d'indignation, d'injustice et de dignité bafouée. Cela a été une réaction de classe, l'expression d'un sentiment de classe. Mais entre un sentiment de classe et une conscience de classe solide, forte, capable de résister aux pressions de la société bourgeoise et d'orienter les travailleurs dans les combats qu'ils ont à mener, il y a un gouffre. Et c'est ce gouffre que pourrait remplir un parti ouvrier, présent largement dans les classes populaires, en incarnant, dans toutes les situations politiques, une politique propre aux travailleurs. Et c'est ça que nous visons. Et c'est tout le sens de notre participation aux élections en général, que les travailleurs s'affirment de nouveau comme une force politique, alors qu'ils sont aujourd'hui dispersés, déboussolés pour certains. Et nous savons donc que ça ne se fera pas en une seule élection. Ce processus peut prendre d'autres voies que celles des élections. Par exemple, cela pourrait se faire par une révolte de travailleurs qui ferait mûrir les consciences à une toute autre échelle et d'une toute autre façon. Mais il faut utiliser toutes les possibilités qui se présentent à nous pour progresser dans cette voie. Et le 6 décembre, il faut utiliser les élections régionales. Il faut que le sentiment et les intérêts de classe qu'il recouvre et que l'on a vu lors des événements d'Air France trouve une expression politique. Si les travailleurs ne s'érigent pas en force politique, c'est la bourgeoisie et les partis à son service qui garderont le monopole de la parole. Et leurs mensonges sur le coût du travail, sur la compétitivité, sur les 35 heures ou le code du travail auront libre cours. Eh bien, il faut que les travailleurs ne laissent pas leurs ennemis politiques parler à leur place. Chaque élection doit permettre de montrer qu'il y a des femmes et des hommes qui se revendiquent du camp des travailleurs. Alors profitons de ces élections régionales et de la présence des listes Elo pour faire entendre ce camp. Dans ce contexte, notre participation, dans ce contexte lié aux attentats bien sûr, notre participation aux élections peut paraître dérisoire. Beaucoup, avant même les attentats, se désintéressaient de cette élection. Cela fait des années, des décennies que le monde du travail vit et s'enfonce dans la précarité. Et il y en a eu des élections. Il y en a eu des alternances. Alors oui, les travailleurs, on a eu des occasions de vérifier que les élections ne changent pas leur sort. Aujourd'hui, avec les attentats et ce sentiment d'être démunis face à une société qui s'enfonce toujours plus dans la barbarie, ne peut que renforcer l'aspect anecdotique d'un tel scrutin et cette idée que tout ça ne sert à rien. En déchirant ou en brûlant leur carte d'électeur, en affirmant qu'ils ne marchent plus dans tout ce cirque, certains croient pouvoir se venger des partis qui les ont trahis et exprimer leur opposition radicale au système. Ils se trompent, car en s'abstenant, ils se taisent. Et pire, elle donnera d'autant plus de poids à tous ceux qui voteront pour le Parti socialiste, pour la droite ou pour le FN. Et au bout du compte, ces abstentionnistes seront récupérés par les vainqueurs. Oui, pour changer la vie des travailleurs, imposer les mesures que Jean-Jacques a développées, il faudra des mobilisations amples et puissantes. Les travailleurs écœurés qui s'apprêtent à s'abstenir pourront, en votant pour nos listes, transformer leur écœurement et leur passivité en un vote de conscience et de combativité. Alors au-delà de la situation immédiate des travailleurs, nous voulons faire entendre les perspectives communistes. Nous voulons profiter de ces élections pour montrer qu'il existe un courant politique qui se place dans la perspective du renversement du pouvoir de la bourgeoisie sur la société, du changement révolutionnaire de la société. Car l'organisation capitaliste de la société est non seulement injuste, anachronique, mais elle représente un frein à l'essor de la civilisation humaine et l'enfonce chaque jour un peu plus vers la barbarie. Les dirigeants actuels de cette société, la grande bourgeoisie et ses serviteurs politiques, sont incapables de résoudre les problèmes fondamentaux qui se posent à la société. Ah, ils ont beau faire des G20, des G8, pour réguler l'économie, la spéculation est toujours loi et la loi et la finance dicte sa loi. Ils ont beau faire des COP19, 20, 21, la pollution n'est pas endiguée. Ils ne prendront aucun engagement contraignant, ni pour leur pays, ni pour les grands groupes industriels qui sont les premiers pollueurs de la planète. Des trusts pour qui l'écologie, c'est bon pour se faire de la publicité et pour s'asseoir dessus, comme le montre la fraude à grande échelle de Volkswagen. Ils ont beau tenir de conseils de sécurité, les guerres s'étendent à de plus en plus de régions dans le monde, jetant des millions d'hommes, de femmes, d'enfants sur les routes. Le système capitaliste est en faillite sur tous les plans. Tout indique que la société requiert une forme d'organisation supérieure, où le génie humain ne serve pas à l'enrichissement d'une minorité, mais aux besoins de tous. Une société où 67 personnes possèdent autant que la moitié de l'humanité est condamnée et doit être renversée. Est devenue parasitaire. Elle monopolise toutes les richesses et ne cédera la place que si on l'y oblige. La classe ouvrière est la seule force capable de détruire les capitalismes et la seule classe capable de jeter les bases d'une autre société, une société communiste. Il faut que la tradition qui a été présente pendant longtemps dans la classe ouvrière, celle du communisme révolutionnaire, continue de se manifester dans le monde du travail. Les idées de lutte de classe ont représenté une force pour les travailleurs dans le passé. Et nous en sommes convaincus, ce sont elles qui représentent toujours la seule perspective valable pour les travailleurs et pour toute la société. Alors, je vous appelle à faire entendre, bien sûr, les intérêts immédiats des travailleurs, l'interdiction des licenciements, l'augmentation des salaires et des pensions, le contrôle des comptes des grands groupes capitalistes, comme l'a rappelé Jean-Jacques, mais aussi à faire entendre politiquement le camp des travailleurs face à ce monde hérissé de frontières et parsemé de dictatures féroces, ce monde où une minorité richissime emprisonne l'essentiel de l'humanité dans un océan de misère et de souffrance. Oui, la classe des travailleurs représente l'avenir de l'humanité. Alors, aidez-nous à faire entendre la voix de notre camp, votez et faites voter pour la liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs.